Bonjour, aujourd'hui, la Grande Loge féminine de France. Au micro, Nathalie Nodin. Notre émission d'aujourd'hui, intitulée « De la Loge au Monde », va nous conduire du chemin de l'initiation, une démarche personnelle, à celui de l'engagement dans la cité, une démarche collective. Alors, quelles sont les voies à emprunter au sein de la Grande Loge féminine de France pour l'accomplissement de ce chemin? Pour répondre à cette interrogation, je reçois aujourd'hui Marie-Claude Carvela-Boux, présidente de la Grande Loge féminine de France, Léa, vice-présidente de la commission laïcité, et Brigitte, présidente de la commission des droits des femmes. Mesdames, bonjour.
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 Pour commencer nos premiers pas sur ce chemin, Marie-Claude, vous qui êtes la présidente de la Grande Loge féminine de France, pouvez-vous nous présenter votre obédience en quelques mots?
Bien volontiers. La Grande Loge féminine de France, au niveau mondial, est la première obédience féminine. Nous comptons près de 14 000 sœurs, 460 loges en France métropolitaine, mais aussi hors hexagone, dans l'océan Indien, le Moyen-Orient, en Afrique, dans les pays de l'Est et actuellement d'autres chantiers sont ouverts. Nous sommes également à l'origine de la création d'une dizaine d'obédiences féminines, essentiellement en Europe et en Afrique, car lorsque dans les pays où nous sommes, les sœurs se sentent prêtes, nous les aidons à fonder leur propre obédience, avec laquelle bien sûr nous gardons des liens très étroits.
Et pour éclairer nos auditrices et auditeurs, pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez en loge à la Grande Loge féminine de France?
Alors, la Grande Loge féminine de France propose aux femmes qui souhaitent travailler au sein d'une société initiatique, philosophique, dans un esprit humaniste et profondément laïque, leur propose de travailler à partir de l'initiation. Parce que l'initiation maçonnique donne des outils, fait découvrir des symboles qui, par comparaison, assimilation, analogie parfois, vont peu à peu prendre sens en nous pour nous permettre de donner du sens à ce qui nous entoure et à notre existence même. Ces symboles sont, pour beaucoup d'entre eux, empruntés aux bâtisseurs de cathédrales, mais pas seulement. S'ajoutent des symboles, des images, des mythes bien plus anciens qui remontent au premier moment où l'homme a débuté une recherche de spiritualité dans une quête de sens qui dure toujours aujourd'hui. Alors la franc-maçonnerie est une école de vie intérieure, mais une école qui n'enseigne rien. Elle met chacun sur un chemin personnel, qui amène à mieux se comprendre et en conséquence à mieux comprendre les autres. Rechercher sa vérité en refusant les vérités toutes faites, oser penser par soi-même, puis porter ensuite sa parole à l'extérieur de la loge, en voyant comment les francs-maçons travaillent à l'amélioration de l'homme et de l'humanité.
Alors, la particularité de la Grande Loge féminine de France est d'être monogenre, puisque exclusivement féminine. Pouvez-vous nous en donner la raison?
Oui, à la JLFF, nous avons fait le choix de travailler entre femmes. Ceci essentiellement pour deux raisons. Tout d'abord, nous sommes une société initiatique et vous comprenez qu'une initiation transmise par des femmes, entre femmes, a forcément en nous une autre résonance que vécue dans un groupe mixte. L'initiation fait appel à ce qu'il y a de plus profond, de plus intime en nous, à notre inconscient. Et notre vie de femme nous conduit à connaître dans notre corps même des phases initiatiques qui donneront une résonance toute particulière à l'initiation maçonnique qui nous fait quelque part mourir à la vie profane. Et puis la deuxième raison du choix d'une obédience féminine, c'est que dans une obédience féminine, nous pensons entre femmes, nous travaillons entre femmes. La parole est plus libre, les raisonnements peuvent aller plus loin, loin du regard des hommes qui, par ailleurs, ont souvent une relation différente de la nôtre à la parole. Alors la démarche maçonnique se présente comme un chemin personnel vécu à plusieurs dans nos loges, là où chacune se forge sa propre personnalité, mais aussi là où s'élaborent des réflexions en commun structurées par notre regard de maçonne. Alors, selon l'expression de notre rituel, nous pouvons continuer au dehors l'œuvre commencée dans le temple.
Eh bien, merci pour cette belle transition, Marie-Claude, puisque nous allons continuer à avancer sur notre chemin. Je vais donc maintenant demander à Léa, je le rappelle, vice-présidente de la Commission de la laïcité, et Brigitte, présidente de la Commission des droits des femmes, de bien vouloir nous expliquer comment s'articule, dans un premier temps, avec Léa, le lien entre la franc-maçonnerie et la laïcité, puis celui entre la franc-maçonnerie et les droits des femmes avec Brigitte. Léa.
Déjà, au XVIIIe siècle, il faut rappeler que les maçons travaillaient à une réflexion personnelle. Elles s'exerçaient à avoir une disponibilité d'esprit. Elles s'exerçaient à la liberté de conscience, à avoir des responsabilités dans la société. Elles devenaient progressivement conscientes de la dignité, du respect qui leur était dû. Mais il n'était pas encore question de la laïcité. Si le principe de la laïcité a été ajouté en 2003 dans la déclaration de principe de la Grande Loge féminine de France, voilà maintenant un peu plus de 15 ans, c'est qu'il est essentiel au socle républicain. Aujourd'hui, en effet, nous constatons toute la modernité et la pertinence de ce principe, tant les attaques dont elle est la cible sont permanentes et violentes. Nous vivons aujourd'hui une période que l'on pourrait qualifier de critique. Et de ce fait, des questions nouvelles sont apparues, réactivant la réflexion et suscitant des débats qui avaient déjà lieu dans les loges. Mais il ne s'agit pas pour nous de participer aux controverses. Nous travaillons à partir d'une réflexion maçonnique, dans un cadre maçonnique, et tenant compte à la fois du bien commun et du bien individuel, dans un va-et-vient permanent, si l'on peut dire. Rappelons que la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l'État, est l'aboutissement d'une démarche de liberté initiée par l'Esprit des Lumières. La laïcité, en s'appuyant sur la raison, libère l'individu de toute suggestion. Et ceci est particulièrement vrai pour les femmes. La laïcité est garante de l'émancipation de la condition des femmes tout au long de l'histoire. Et lorsque la laïcité est attaquée, c'est souvent les femmes qui sont les premières victimes de ces attaques. Les principes inaliénables que la laïcité promeut sont au nombre de trois, il faut les rappeler, ils sont essentiels. La liberté, liberté de conscience et d'expression. L'égalité, égalité de tous, qu'ils soient athées, agnostiques ou croyants. Et enfin, fraternité, c'est-à-dire la reconnaissance de notre qualité d'être humain, quelle que soit nos différences. Aujourd'hui, nous constatons la profonde modernité et la pertinence du principe de laïcité, tant les attaques dont elle est la cible sont permanentes et violentes.
Si la Grande Loge féminine de France a pu se fonder et prospérer comme elle l'a fait depuis 70 ans, cela n'aurait jamais pu se faire sans les droits des femmes. Liberté de circuler, de se réunir, de s'associer. L'affirmation des droits des femmes est donc le principe premier, la cause, la source de l'existence d'une franc-maçonnerie féminine indépendante et souveraine. Aujourd'hui, dans un contexte mondial en pleine mutation où la barbarie veut remplacer la liberté, où partout s'exercent des pressions pour que régressent les droits des femmes, notre engagement de franc-maçonne nous oblige à affirmer clairement l'un des fondamentaux de notre obédience. La Commission nationale des droits des femmes a été créée au sein de la Grande Loge féminine de France après bien des débats. Il y a plus de 10 ans, par des maçonnes qui souhaitaient inscrire les droits des femmes au cœur du processus d'émancipation que constitue la démarche initiatique. Ce qui allait de soi au moment de la création de notre obédience avait donc besoin d'être réaffirmé dans une commission nationale dans laquelle des délégués régionales, des sœurs élues dans nos assemblées sont force de proposition et d'action.
Merci Brigitte. Et comment définiriez-vous les rôles respectifs de la commission laïcité et de la commission des droits des femmes ? Léa, pour la commission laïcité.
Oui, je vais rappeler l'article 3 de notre constitution qui précise que la Grande Loge féminine de France proclame sa fidélité à la patrie ainsi que son indéfectible attachement aux principes de liberté, de tolérance, de laïcité, de respect des autres et de soi-même. Cela donne à la Grande Loge des devoirs et c'est pour cela que l'obédience est très vigilante aux attaques contre le principe de laïcité et a créé une commission en 1980. Et cette commission, qui comprend des sœurs de toutes les régions du territoire métropolitain, mais aussi des territoires hors hexagone, est à la fois une source de réflexion et de propositions, mais aussi vigie d'alerte à toutes les attaques. Et dès que nécessaire, en effet, la Grande Loge féminine de France réagit par voie de communiqué de presse. Nous n'hésitons pas aussi à descendre dans la rue lorsqu'il le faut, lorsque la laïcité est attaquée. Autre point, la laïcité est un principe complexe dont le cheminement s'est fait de façon non linéaire et qui est souvent mal compris, mal interprété. Donc afin d'expliquer, de dialoguer, d'échanger, nous organisons tout au long de l'année des réunions ouvertes au public et chaque année, la Commission nationale de la laïcité organise un grand colloque annuel ouvert au grand public en décembre. Le prochain aura lieu le 7 décembre.
Brigitte, qu'en est-il pour la Commission des droits des femmes ?
Nous sommes aujourd'hui plus qu'hier dans un perpétuel mouvement de balancier entre évolution et régression, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes. Les conservateurs de tous bords donnent de grands coups de butoir contre nos acquis féministes. Par notre travail personnel et collectif, nous devons d'être des éclaireuses et des porteuses d'avenir. Nombre de francs-maçons ont largement participé dans leur vie profane à l'évolution des lois en faveur des droits des femmes. Si nous, maçons, nous nous considérons comme citoyennes et femmes responsables, nous devons prendre publiquement position en tant que groupe influent sur les grands problèmes que nous pose la société d'aujourd'hui. Nous le faisons notamment au sein de commissions et participons à la préparation d'interventions publiques, des auditions des représentants de notre obédience. Et nous sommes conscientes qu'un nouveau danger guette les droits des femmes, leur récupération par tous les extrêmes, qu'ils soient politiques ou religieux. Les droits des femmes sont plus faciles à défendre dans un état de droit que sous une dictature.
Alors maintenant, j'ai envie de vous demander quels sont les moyens d'action avec les commissions pour la défense et la protection de ces deux piliers que sont la laïcité et les droits des femmes. Peut-on dire, Léa, que vous avez, entre autres, un rôle de consultation?
Oui, bien sûr. Notre rôle est à la fois de promouvoir et de défendre la laïcité. Alors, notre rôle de consultation, pourquoi? Eh bien, nos autorités politiques nous reconnaissent comme étant dans la catégorie de famille de pensée. À ce titre, nous sommes régulièrement consultés, par exemple au Sénat, à l'Observatoire de la laïcité. Donc sur les grands débats de société, par exemple sur les lois de bioéthique ou sur la fin de vie. Nous avons aussi contribué au grand débat national de ce début d'année. Notre travail sur les chantiers sociétaux devient ainsi une force de proposition. Mais nous avons aussi un rôle de vigilance. Il s'agit de suivre l'actualité de la laïcité, d'alerter sur ses dérives. Nous interpellons ainsi les candidats aux élections nationales ou européennes sur leur position concernant la laïcité et leur intention pour la défendre, voire la promulguer. Et ce travail est très important avec les réseaux sociaux et toutes les informations qui circulent. Toute construction de loi, tout comme son application, doit être laïque, bien sûr, et nous y sommes très attentives. Nous ouvrons régulièrement nos portes pour présenter nos travaux et échanger avec le grand public. Ce sera le cas, par exemple, lors des journées du patrimoine dans certains de nos temples. À Paris, nous organisons une journée le 28 septembre. Nous avons aussi une collection d'ouvrages, voix d'initiés.
Brigitte, comment cela se passe donc avec la Commission des droits des femmes?
Tout comme la Commission laïcité. Nous rédigeons des contributions pour les auditions parlementaires de notre présidente. Nous organisons des colloques, des conférences au niveau national et régional. Et nous agissons hors les murs. Nous avons travaillé pour lutter contre les violences masculines, prévention, protection, les poursuites et le suivi. Pour inscrire le principe d'égalité entre femmes et hommes dans la Constitution, le droit fondamental à l'IVG, la loi antisexiste, et nous considérons que les droits des femmes acquis de haute lutte sont toujours susceptibles de remise en cause.
Et justement, pour la défense des droits des femmes, comment pouvez-vous agir de manière plus active?
Ce devoir devrait à l'accomplissement et au respect des droits des femmes, condition indispensable de l'universalité des droits humains. Nous l'avons inscrit depuis juin 2018 dans notre déclaration de principe et nous avons à le faire vivre. Les violences conjugales et l'impact sur la santé des femmes et de leurs enfants, qu'avons-nous à dire et à faire? Au mois de mars, un colloque ouvert construit au sein de la Commission conventuelle des droits des femmes les violences masculines, le coup des coups, nous permettra de nous confronter à la réalité dans sa globalité et de sortir d'une nébuleuse. Et nous poursuivrons avec la troisième édition du Prix des droits des femmes. Eliane Viennot puis Geneviève Fraisse ont été nos premières lauréates. La Commission conventuelle des droits des femmes a également participé à l'organisation des rencontres de la Grande Loge féminine de France du 9 novembre, Femmes en prison, la double peine, et souhaite, via les commissions régionales qui le souhaiteront, poursuivre la réflexion engagée et continuer à être force de proposition.
Eh bien, merci à vous deux, Léa et Brigitte, pour nous avoir conduits conjointement sur ce chemin de l'ouverture au monde par la présentation des travaux, réflexions, implications dans la vie de la cité de ces deux commissions, laïcité et droits des femmes. Et je vais maintenant demander à Marie-Claude, donc présidente de la Grande Loge féminine de France, de bien vouloir conclure sur nos échanges.
Comme nous l'avons vu, la laïcité a ouvert à nous les femmes la marche vers notre émancipation et vers notre accès à la citoyenneté. C'est pourquoi nous sommes convaincus de l'importance qu'elle revêt et sommes résolus à la promouvoir, à la défendre en France, mais aussi à en faire comprendre le principe en Europe. Cela, d'autant plus que le principe de laïcité garantit aux femmes d'avoir accès à leurs droits pleinement. Dans nos loges, nous bousculons nos certitudes, combattons les idées reçues et changeons de paradigme pour mieux comprendre l'évolution du monde. Car nous en sommes persuadés, les défis de demain sont notre affaire, à nous, les femmes. L'heure n'est pas au repos et le chantier est immense, il reste ouvert. Et nous travaillons avec les sœurs, dans la tolérance, l'altérité et la fraternité. À nous, francs-maçons, de continuer au dehors l'œuvre commencée dans le temple.
Encore merci à vous, Marie-Claude, Léa et Brigitte, pour vos éclairages apportés sur le lien indéfectible entre la démarche initiatique, qui est par essence individuelle et vécue par chacune d'entre nous, avec l'engagement dans la cité au travers du travail collectif des commissions de la laïcité et des droits des femmes de la Grande Loge féminine de France. Rendez-vous est pris, mesdames, pour le prochain colloque organisé dans le cadre des rencontres de la Grande Loge féminine de France, Femmes en prison, la double peine, le samedi 9 novembre à la Maison du Barreau, dans le 1er arrondissement de Paris. Et puis, retrouvez sur le site de la Grande Loge féminine de France, www.glff.org, tous les renseignements et le calendrier de nos rendez-vous à venir. Avant de nous quitter, il me reste à remercier Alain Joubert et Dany Journeau pour la réalisation de l'émission, en attendant de nous retrouver en décembre. Bon dimanche à tous !